France Culture.
Auschwitz-Birkenau, le lieu témoin. De la mémoire polonaise à l'histoire européenne.
Le camp qu'on peut voir aujourd'hui contient beaucoup d'éléments authentiques datant de l'époque de la guerre. Il y a les ruines des baraques à Birkenau. Il y a les baraques du camp principal qui ont été très restaurées. Il y a les ruines des quatre chambres à gaz. Il y a les rails, bien sûr. Il y a les barbelés. Tous les barbelés à Auschwitz I et à Birkenau ont été remplacés au moins deux fois depuis la fin de la guerre.
Forte demande, indiquent les sites touristiques. Visitez Auschwitz, un site poignant de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Transport en minibus climatisé depuis Cracovie. Guide professionnel agréé, garantie d'une expérience confortable et accessible à tous les participants. Chaque année, près de 2 millions de visiteurs parcourent le site d'Auschwitz.
Souvent, des gens viennent avec des pinces et prennent quelques centimètres de ce qu'ils pensent être les barbelés d'Auschwitz. C'est un souvenir à leurs yeux. Mais ces barbelés ne sont pas les originaux. Le fer rouille avec les années, les barbelés disparaissent peu à peu.
Première partie, 1947-1968. Un mémorial polonais et communiste. Près d'un million d'hommes, de femmes et d'enfants juifs venus de toute l'Europe, ont été assassinés ici. La plupart, dès leur arrivée. Plus de 20 000 tziganes, assassinés eux aussi en famille. Parmi les déportés non-juifs, prisonniers politiques, prisonniers de guerre ou résistants, 15 000 soviétiques, qui y sont presque tous morts de faim. Plus de 130 000 polonais, dont 70 000 environ sont morts. Des milliers d'Autrichiens, d'Ukrainiens, de Yougoslaves, d'Allemands. Plus de 3 000 résistants français, venus de trois convois différents, dont Charlotte Delbo, Daniel Casanova, Marie-Elisa Nordman-Cohen ou Marie-Claude Vaillant-Couturier. À la mi-janvier 1945, les nazis ont évacué le site, poussant sur les routes près de 60 000 déportés squelettiques dans ce qu'on a appelé les marches de la mort. Ils ont également tenté d'effacer les traces les plus accablantes du camp. Le dernier crématoire est détruit dans la nuit du 27 janvier 1945, quelques heures avant que l'armée rouge n'atteigne Auschwitz. Les soldats soviétiques y trouvent environ 7 000 déportés, trop faibles pour quitter le camp. Ils y découvrent également plus de 350 000 costumes d'hommes, plus de 800 000 vêtements de femmes, des milliers de chaussures, de brosses à dents, d'ustensiles de cuisine, des tonnes de cheveux, des centaines de cadavres. Après la guerre, le nom d'Auschwitz commence à résonner en Europe. C'est le cimetière des Juifs de Hongrie, de Grèce, de France, d'Italie, des Pays-Bas. Ce qui a été un camp d'extermination a également été un camp de travail. Une petite partie des hommes, des femmes, parfois des adolescents juifs jugés aptes au travail, ont été soustraits à la mort immédiate pour alimenter l'industrie allemande en main-d'œuvre gratuite, pour agrandir et pour faire fonctionner le camp. Ceux d'entre eux qui ont survécu à la famine, aux maladies, à la torture, même s'ils ne parlent pas aussitôt, même s'ils ne sont pas aussitôt écoutés, vont faire circuler ce nom. De même, les déportés politiques et les résistants, qui témoignent parfois aussitôt après la guerre, et notamment les communistes, qui s'organisent en association. si personne ne prend ou ne veut prendre encore la mesure de l'extermination des Juifs d'Europe, Auschwitz-Birkenau est donc un symbole dès l'après-guerre. Mais dans la Pologne communiste, et même jusqu'au milieu des années 50 stalinienne, le musée offre aussi l'occasion de produire un récit en conformité avec une idéologie qui veut voir les nations s'unir contre un ennemi commun et prétend effacer dans le discours de la fraternité toutes les différences entre les victimes. Ce discours se lit en filigrane dans La dernière étape, un film tourné dans les camps en 1946 par Wanda Jakubowska, une femme polonaise qui y a été internée. Il faudra des changements politiques majeurs, des affrontements et surtout des décennies entières pour que le musée qui naît en 1947 devienne le lieu que nous connaissons aujourd'hui, un lieu presque entièrement associé à la Shoah, une mémoire européenne.
Voilà en gros l'histoire telle que je la connais. Ce sont des prisonniers politiques, parce que les Polonais internés au camp d'Auschwitz I, se nommaient eux-mêmes prisonniers politiques, ce sont donc des prisonniers politiques.
Annette Viviorca.
Qui décident de rester sur place.
Historienne.
Et de faire de ce lieu une sorte de mémorial, donc de musée. Donc, ils nettoient, ils installent des champs de pommes de terre pour se nourrir à Birkenau, et ils s'installent sur place. Et ils commencent à préparer une petite exposition dont la teneur est nationaliste. Et quand on dit nationaliste en Pologne, ça veut dire catholique. Et puis petit à petit, très vite, l'idée va se faire que ça doit être un musée, le musée du martyrologe polonais. Et je crois que c'est en 1947, le gouvernement polonais décide de faire d'Auschwitz un musée.
À partir de 1945, il y a d'anciens détenus qui ne partent pas, qui restent dans cet endroit et qui y vivent.
Oui, bien sûr. D'abord, il y a une crise du logement. Il faut bien comprendre qu'en Pologne, il y a une crise du logement importante et qu'ils vont y rester, y compris le directeur du musée. Le directeur du musée, qui est, je ne sais plus si c'est le premier directeur, M. Smolène, qui a été là très très longtemps, a vécu pratiquement toute sa vie au musée.
Jean-Charles Chourec.
En 1989, certains...
Historien.
Appartements qui appartenaient au complexe du musée étaient encore des appartements où résidaient d'anciens déportés. Oui, ça choque au début, ça fait bizarre en tout cas.
Le site devient un musée en 1947. On a dit aussi que c'était pour que ça ne soit pas envahi de pilleurs.
On sait qu'il y avait déjà des orpailleurs, c'est-à-dire des gens qui cherchaient de l'or dans les fosses et les lieux où avaient été brûler les corps des déportés. Les paysans alentours tentaient d'aller prendre pour se chauffer le bois des baraques en bois. Donc cela se savait. D'ailleurs, la presse polonaise se faisait l'écho de ces gens qui allaient, comme des hyènes, chercher de l'or dans les restes d'Auschwitz. Oui, ça se passait entre 45 et 47, et même après d'ailleurs.
J'ai quelques pudeurs à parler ce soir du camp d'Auschwitz, car je n'y ai pas été interné.
Francis Crémieux.
Et aujourd'hui, je vois que trois grands cinémas de Paris présentent La dernière étape, film polonais réalisé dans le camp même.
RTF, 24 novembre 1948.
Ce que j'ai vu à Auschwitz, je voudrais que tous ceux qui m'écoutent aient pu le voir. Car malgré son réalisme et sa grande vérité, le film de Wanda Jakubowska ne peut pas tout montrer. Et d'abord, il ne peut pas nous rendre cette odeur légère qui flotte dans les bâtiments où est installé le musée d'Auschwitz, dans les baraques même du camp modèle que l'on faisait visiter aux délégations sanitaires internationales, alors qu'à 3 kilomètres plus loin était le vrai camp, celui de Birkenau, avec ses 5 fours crématoires. Il ne rendra pas cette odeur de gaz cyclone, dont les cristaux se voient encore sur les cheveux des martyrs qui remplissent une salle de 20 mètres de long et de 4 mètres de large. Lorsque les Russes ont libéré Auschwitz, il restait 7 tonnes de cheveux qui n'avaient pas encore été envoyés aux trusts allemands pour faire des tapis de feutre que l'on place sous les machines à écrire, des vêtements, pantoufles, chapeaux, etc. Dans le musée d'Auschwitz, j'ai vu aussi une pièce entière remplie de brosses à dents. Il y en avait au moins 1 million. Une autre de blaireaux, la troisième de chaussures d'enfants, la quatrième d'instruments orthopédiques, la cinquième de sacs à dos qu'abandonnaient les déportés avant d'entrer au crématoire. Toujours dans le petit camp, dans le camp modèle, j'ai vu la baraque 11, la baraque de la mort, avec au sous-sol cette cellule où un prêtre avec son ongle a gravé un Christ en croix sur l'enduit du mur. Je suis passé près de la petite estrade sur laquelle étaient les musiciens qui jouaient des valses viennoises pendant que les bagnards allaient à la mort. Et je suis allé voir le vrai camp, celui de Birkenau.
L'objectif numéro un de la constitution du musée était de faire un musée d'un lieu qui avait été un lieu terrible pour l'Europe, pour les Juifs, et pour les Polonais aussi. C'est le plus grand cimetière juif. On le sait très bien maintenant, on le savait plus ou moins dès le départ, mais on n'arrivait pas à mettre le point sur le i, si je puis dire. Et ça a été le plus grand cimetière polonais aussi. 150 000 Polonais sont passés par le camp. Au début, c'était un camp pour Polonais, d'ailleurs. Pendant 2 ans, de 40 à 42, ça a été un camp pour Polonais. C'est le plus grand groupe national. Et 75 000 Polonais sont morts à Auschwitz. C'est donc, pour eux, le plus grand cimetière polonais.
J'ai suivi la ligne de chemin de fer qui passe sous la grande porte cochère de Birkenau et qui se termine au butoir du crématorium numéro 4. J'ai vu le plan incliné qui conduit doucement vers la salle de douche où l'on pouvait gazer 40 000 personnes par jour. J'ai été aussi à l'extérieur du camp, à l'endroit où les Allemands creusaient des fosses profondes dans lesquelles ils empilaient une couche de bois, une couche de cadavre, une couche de bois, une couche de cadavre avant de les brûler. Le sol sous mes pieds était étrangement dur, fait d'un mélange d'os et de terre, bosselé par endroits tant la couche de cadavre était épaisse. À 100 mètres de nous, un paysan fauchait, nous l'appelons. Il était le propriétaire d'une petite maison dont on ne voit plus trace. Il fut évacué comme le furent ses compatriotes à 40 km à la ronde. Maintenant il est revenu, il reconstruira sa maison, mais nous dit-il, je ne peux plus cultiver mon champ parce que je ne peux plus labourer, il y a trop d'os.
Est-ce qu'on peut dire que dès le début, les Juifs sont complètement absents de cette muséographie ?
Dès le début du musée, il n'y a pas de conscience ou de discours clair sur le fait que la destruction par le gaz à Birkenau est quelque chose qui concerne principalement les Juifs. Je dis principalement parce qu'il ne faut pas oublier les tziganes. Et Henriette Asseo insiste toujours sur le fait que les tziganes et les juifs ont partagé les mêmes chambres à gaz et que les tziganes comme les juifs, même si l'histoire est différente, je ne suis pas en train de faire une équivalence, mais les tziganes et les juifs sont les seuls qui ont été assassinés en famille, c'est-à-dire homme, femme, enfant. Alors, je mettrai un tout petit bémol, c'est que dans la muséographie elle-même et dans ce qui est montré des objets, il y a des objets qui sont clairement, qui indiquent clairement que c'est des objets appartenant à des juifs, dès 1947, notamment les châles de prière, les talettes.
Lors de l'exposition de 1947, dans le bloc 4, dédié aux « martyrs des Juifs », dit la presse de l'époque, une colombe surmonte un chandelier à 9 branches posées sur des couronnes de fleurs. Au-dessus, un mot en hébreu, la prière de deuil qu'on récite à la mémoire des parents disparus. Plus loin, derrière des fils de barbelés, des boîtes de zyklombés, entre des barrières de verre, une longue fosse de nattes brunes ou blondes. Dans le bloc 5, les talits jetés les uns sur les autres, les ustensiles de cuisine. Dans le bloc 6, des vêtements d'enfants minuscules, épars, une autre fosse, cuillères, fourchettes, ciseaux, parapluies, boîtes de cirage, paniers d'osier, et dans une pièce entière, un océan de vêtements. Cette exposition historique va se modifier une première fois en 1950, où le stalinisme impose son récit.
de femmes et d'enfants.
Juifs, Polonais et autres nations ont subi le même sort atroce. Les racines d'Auschwitz ne seraient pas à chercher dans la mécanique et l'idéologie nazie, mais dans l'impérialisme occidental, dont les Américains et les Anglais, héritiers d'Hitler, sont l'incarnation. Ce discours ne s'infléchit qu'en 1955, 2 ans après la mort de Staline, et alors que le 3e directeur du musée, Casimir Smolen, prend ses fonctions. Cet ancien prisonnier politique polonais a été interné à Auschwitz de 1940 à 1945. Il a fait partie de la commission d'enquête sur les crimes nazis en Pologne. Il va faire du musée un centre de recherche avec des archives, une bibliothèque, une maison d'édition.
Au moment de la libération, ces images font partie de la chronique de la libération des camps.
Toutefois, le discours antifasciste continue de régner et le destin spécifique des Juifs et des Tziganes à Auschwitz reste dilué dans le sort des nations. Durant ces années, et longtemps après encore, Birkenau est encore à l'abandon. Seule une modeste pierre du martyr est érigée en 1948 dans la cour du crématoire 2, avec ce texte en polonais, en hébreu et en yiddish, à la mémoire des millions de Juifs exterminés à Auschwitz-Birkenau par les assassins de race hitlérienne, 1940-1945.
Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous êtes allé visiter Auschwitz? C'était pendant peut-être un voyage scolaire ou...
Ben non, justement, il y a bien eu un voyage scolaire organisé, mais mes parents, sous prétexte que on m'a découvert un truc cardiaque pendant l'enfance, ils n'ont pas été d'accord. Et donc la classe est partie, mais pas moi. Mais je pense que, en fait, pour mes parents, il y avait aussi d'autres raisons. Parce que justement, forcément, j'imagine, ils avaient peur que j'apprenne des choses là-bas.
Agnieszka Kruzinska.
Enfin, tout ce qu'ils voulaient pas.
Auteur et traductrice.
Mentionner chez nous à la maison, la guerre, l'extermination, les Juifs, tout ça. Il vaut mieux ne pas en parler. Comme dit encore l'international, du passé faisons table rase. Et sinon, on ne peut pas avancer dans la vie.
Alors, vous n'y allez pas à 12 ans, mais vous y allez plus tard?
Oui. J'y vais bien plus tard. Je travaillais à Varsovie dans une maison d'édition. Vous savez, c'était encore Auschwitz d'avant, si j'ose dire.
C'est-à-dire
D'avant le débat sur les relations polono-juives, avant... de cette mention qu'on faisait après et maintenant, justement, que c'était surtout le camp d'extermination des Juifs. Je ne l'ai pas visité comme ça. J'étais déjà bien sûr consciente qu'il y avait la majorité des Juifs, mais je l'ai visité comme... je l'ai regardé, entendu... vu, je ne sais pas, par tous les sens, comme un lieu de martyr de tellement de personnes. Et ça m'importait peu, la question, qui étaient ces gens-là.
Quand le musée est créé en 1947, il représente quelle superficie par rapport à la superficie initiale ?
Tal Brutmann. Historien.
La question elle est extrêmement complexe, tout dépend de ce qu'on appelle Auschwitz. Parce qu'Auschwitz, ce n'est pas juste le camp tel qu'on se le représente, c'est une ville sur laquelle vient se greffer un camp et qui vont être en osmose du fait des SS dès le départ. Autrement dit, l'espace qui est à Auschwitz, ce n'est pas juste ce camp, le Stammlager, c'est-à-dire le camp souche avec l'Arbeitsmarktfrei, c'est un immense ensemble sur lequel viennent s'articuler d'autres camps. Donc déjà... Auschwitz, c'est un nom qui recouvre tout un ensemble de réalités. Et dans ces réalités, il y a le complexe concentrationnaire qui est colossal. Ce qui est préservé, c'est une infime partie de cet immense ensemble. Et en fait, c'est le cœur C'est le cœur étant Auschwitz I, là où a tout commencé d'un point de vue concentrationnaire, et Birkenau, qui a été à la fois le plus grand de tous les camps de concentration du système nazi, et un immense centre de mise à mort qui n'est pas dans le camp, qui est à la lisière du camp, où là vous avez un ensemble de chambres à gaz, alors deux chambres à gaz qui ont été initialement installées dans des fermes dont les Polonais ont été chassés au début de l'occupation, et puis un an et demi plus tard sont mises en place des crématoires, mais en fait c'est le terme SS, le terme nazi, ce sont des chambres à gaz couplées avec des crématoires, des endroits où on tue et on détruit les corps immédiatement. Donc si on prend tout cet ensemble, où vous avez des structures liées au camp, c'est ventilé sur quasiment 40 km². À cela viennent s'ajouter tout un ensemble d'autres structures, et donc des bâtiments, vous avez des champs agricoles, et une immense majorité des prisonnières d'Auschwitz ont été affectées aux travaux agricoles, alors pas forcément de la récolte, mais aménager les champs, drainer les marécages, etc. Et personne ne se représente cette réalité-là quand on pense à Auschwitz, on pense aux usines, notamment à Labuna où était Primo Levi, mais on pense pas à des champs. Vous avez des laboratoires de recherche au sens propre du terme, il y en a une demi-douzaine répartis dans cet espace qui est géré par la SS. Vous avez des mines, et Henri Krasucki par exemple est descendu au fond de la mine pendant des mois, etc., etc. Donc il y a tout un ensemble de réalités. Les mines ont repris leur usage qu'elles n'avaient pas perdu pendant la guerre, mais avec évidemment une autre population. Les mines ne font pas partie de l'ensemble qui est muséifié en 1947, pas plus que la ville qui reprend son histoire de ville débarrassée du joug allemand à partir de la libération. Et on peut continuer comme ça. Donc ce qui est préservé, c'est Auschwitz I, le camp souche, et une partie de Birkenau, parce que Birkenau, c'est pas vraiment un camp, c'est un périmètre qui est constitué d'une dizaine de camps. Tout ça forme un énorme rectangle qui donne l'impression d'un camp unique, alors que c'est une succession de secteurs de détention, et que chaque prisonnier qui est détenu dans un de ces secteurs de détention ne connaît pas l'espace alentour, puisque au mieux, s'il sort de son camp de détention, il va vers un lieu de travail quotidiennement et il ne voit pas les environs. C'est-à-dire que quelqu'un qui est détenu dans le camp de quarantaine ou dans le camp, une partie du camp des femmes, le B1A, c'est-à-dire la partie la plus proche du Mirador central que tout le monde identifiait pour Birkenau, ces gens-là n'ont jamais vu les chambres à gaz qui se trouvent à l'opposé. Et ça montre vraiment à quel point Auschwitz, ce n'est pas un lieu, c'est une myriade de lieux. Et quelqu'un qui a été déporté à Auschwitz, on prend Primo Levi par exemple, il débarque sur ce qui s'appelle le quai aux Juifs, la Judenrampe, dans une nuit de février 1944. Il est embarqué dans un camion, il est envoyé à Labuna. Littéralement, Primo Levi n'a jamais vu Auschwitz, entendu comme Auschwitz I, il n'a jamais vu Birkenau, pas même le Mirador central, c'était la nuit. Primo Levi n'a vu que Monowitz et Labuna, qui se trouve en face de Monowitz, où il a été affecté au travail durant sa détention. Et pourtant, c'est un rescapé d'Auschwitz et c'est un témoin d'Auschwitz, mais pas de n'importe quel Auschwitz. Tout témoin d'Auschwitz ne peut pas parler de l'ensemble d'Auschwitz, il ne peut témoigner que de ce qu'il a vu. Les rescapés parlent de la planète Auschwitz et il faut vraiment le prendre dans l'ensemble de ses significations. C'est un monde à part, évidemment, par le fonctionnement du site, mais sur cette planète, il y a des continents qui sont séparés par des océans. Et ces océans, faut vraiment le comprendre. D'un côté à l'autre d'un barbelé qui sépare deux des camps qui forment Birkenau, il y a des connaissances qui sont connues ou inconnues par des gens qui se trouvent à un ou deux mètres les uns des autres. C'est vraiment un univers qui est totalement incompréhensible et que le visiteur, et c'est ça l'énorme paradoxe, ne peut pas saisir.
Impossible également de saisir que la planète Auschwitz est elle-même l'un des nœuds d'un réseau bien plus vaste. Car tous ces camps sont reliés entre eux, obéissant à une même logique, assassinant les personnes, captant et redistribuant les biens. Ces chaussures, ces lunettes, ces vêtements que nous voyons aujourd'hui comme les reliques des morts, ont été le butin des nazis, enrichissant le Reich de tout ce qui était volé aux hommes, femmes et enfants assassinés. Ainsi, Otto Dovkulka, cherchant les traces de sa mère, retrouve-t-il au camp de Stutthof, près de Danzig, les traces des morts d'Auschwitz.
Comme nous étions là, dans le froid de la Baltique, fin octobre, près d'un des plans du camp bien tenu, je m'éloignais du groupe et me dirigeais vers la forêt. parce que là, dans cette forêt, nous fut-il expliqué, s'était trouvé le camp des Juifs d'Auschwitz. Là aussi, la grande fosse où l'on brûlait les corps. Je marchais, je ne savais pas vraiment où j'allais ni ce que je voulais. Je traversais la vaste pelouse, sans clôture ni barbelée, ni herbe haute, ni arbre, l'espace dans lequel les camps étaient marqués par des constructions blanches de pierre taillées plus ou moins rectangulaires, et, sur elles, des plaques indiquant les camps qui s'étaient trouvés là dans le passé. J'avançais d'une sorte de monument à l'autre, d'un camp au suivant, me dirigeant vers la forêt où aucune structure ne se dressait, où aucune pierre n'était posée. Un lieu de désolation primitive. Marais, arbres tombés, bouleaux blancs, arbres noirs et arbres que je ne me donnais pas la peine d'identifier. Je me rapprochais et après une certaine hésitation, j'entrais dans la forêt. Je contournais les marais, les flaques et m'arrêtais où je m'arrêtais. Je récitais le Kaddish, je lus le Kaddish, la prière des morts juives. Je m'en retournais. Marchant là-bas, je ne vis devant moi que la forêt. Au retour, mes yeux restèrent fixés au sol. Et alors que je parcours l'herbe ainsi, tous les deux, trois pas ou presque, je tombe sur des lanières de cuir, noires, pour certaines pourries, racornies. J'en ramassai une ou deux sans savoir ce que je faisais. Je m'en retournai alors et rejoignis le groupe qui m'accompagnait. Nous nous rendîmes tous au quartier général bien tenu et chaud des SS, désormais lieu de recherche. La directrice du site me demanda de rencontrer l'équipe de chercheurs et de partager un thé et des biscuits. On nous donna aussi une photocopie du fichier des détenus, la carte de ma mère avec ses indications, cause du décès, néant, date du décès, néant, date d'arrivée et ancien lieu de détention, Auschwitz. Aujourd'hui encore, la carte est en ma possession. Mais la principale raison pour laquelle je rapporte cette rencontre est un événement qui survint plus tard quand nous allâmes voir la petite exposition présentée dans le bâtiment. On y voyait entre autres une grande vitrine longue contenant des milliers de chaussures en vrac telles qu'elles avaient été fourrées dans la vitrine, comme on voit sur les photographies du musée d'Auschwitz. Nous leur demandâmes « Quoi, ici aussi, les femmes allèrent à la mort préalablement délestées de leurs souliers ?» Car à Auschwitz, ces chaussures appartenaient aux centaines de milliers de gens qui n'en avaient plus besoin, après avoir été emmenées dans les couloirs des chambres à gaz. La directrice du site répondit « Non, ce sont des souliers d'Auschwitz. » En fait, tout comme Auschwitz expédiait des armées d'esclaves, les femmes, des trains entiers d'esclaves au crâne rasé, il expédiait aussi des wagons entiers de chaussures, à charge pour les détenus de Stutthof de les réparer, de rafistoler et d'examiner les souliers au cas où s'y cacheraient les derniers trésors de ceux qui périrent.
La création de ce musée, qu'est-ce que ça représente en Pologne en 1947, au moment où c'est fait? Est-ce qu'on a une conscience de l'importance d'Auschwitz et du sens que ça va avoir, et en Pologne, et au plan international?
Oui, je pense que les survivants qui créent le musée ont conscience que c'est un musée qui peut devenir très important avec des expositions nationale. Déjà, à l'époque, on pense à des expositions nationales. Dans la mesure où des déportés sont venus de toute l'Europe, et la presse polonaise se fait l'écho d'ailleurs de l'importance de ce musée, qui est tout de suite perçu comme étant un musée de la mort des Polonais. C'est d'abord perçu comme un musée, et d'ailleurs c'est dénommé de cette manière-là, c'est dénommé le musée de la martyrologie polonaise et des autres nations. Ça veut bien dire ce que cela veut dire.
dans cette industrie qui expédiait ensuite les chaussures dans toutes les parties du Reich, ne restaient que les lanières de cuir jonchant l'immense superficie des camps qui, je l'ai dit, étaient si soigneusement entretenues sous la forme d'une immense pelouse et de monuments rectangulaires de pierre blanche. Voici donc un autre lien surprenant entre la métropole d'Auschwitz et sa cité satellite de Stutthof. Non seulement les gens étaient pris dans la loi immuable, quand bien même avaient-ils quitté les lieux, mais les souliers des assassinés, de ceux qui périrent, les accompagnaient également ici. Et ce puissant courant de la Vistule, la méchante Vistule, le fleuve dont nous avions commencé d'approcher la section supérieure lors de mon précédent retour à Auschwitz, avec le chauffeur de Cracovie qui jacassait, parlant de la méchante Vistule qui débordait et faisait du tort aux hommes et aux animaux, et où l'on jetait les cendres des incinérés, dans son affluent, en fait, le Sola qui s'y jette. Cette Vistule qui traverse la Pologne du sud au nord, vers les plaines de la Prusse orientale, et se répand en un vaste delta dans la Baltique, symbolisait ce lien, le lien avec la loi immuable à laquelle on n'échappe pas.
Paysage de la métropole de la mort. Otto Dovkulka.
Le camp d'Auschwitz, c'est aussi et d'abord le lieu de la répression anti-polonaise, contre l'État polonais et la nation polonaise.
Avant tout, vous diriez ?
Pas avant tout. Parce que quand il est ouvert, au printemps 1940, il est ouvert pour mettre à bas la nation polonaise, ça fait partie d'un ensemble, pour mettre au pas les Polonais. Maintenant, dans les Polonais, il y a les nationaux polonais, mais il y a d'autres nationalités en Pologne, dont la nationalité juive.
La nationalité est juive.
Et oui, on est en France, on connaît pas le reste du monde, mais dans le reste du monde, le juif n'est pas une religion, c'est une nationalité.
Avant-guerre, en Pologne, il y a des Polonais qui ont la nationalité polonaise, c'est-à-dire ils sont considérés comme catholiques, et des Polonais juifs qui ont ce qu'on pourrait appeler la nationalité juive.
Oui, en Pologne, en URSS, dans les pays baltes, même en Grèce fut un temps, on est citoyen de l'État, donc citoyen polonais, et on a une nationalité qui varie selon ses origines, nationalité polonaise pour ceux qui sont de religion catholique, qui parlent polonais et qui sont de culture polonaise, orthodoxe, qui parlent ukrainien, etc., sont des Ukrainiens, et les gens qui parlent yiddish, qui sont de religion juive et qui ont une culture juive, sont de nationalité juive, ce sont des citoyens polonais de nationalité juive. Il n'y a quasiment qu'en France que juif n'est qu'une religion. Ça, c'est l'héritage de la Révolution française qui nous empêche paradoxalement de comprendre le reste du monde, ce qui fait beaucoup de choses quand même. Et du coup, cette réalité-là, qui est totalement intégrée dans les pays où elle existe, nous échappe totalement. Et on ne comprend pas pourquoi des Polonais parlent des Juifs comme si c'était un autre corps, alors qu'en fait, c'est cette réalité-là qui a longtemps prévalu. Et entendu par autre corps, ça ne veut pas dire qu'on les place dans une position d'infériorité, ce qui peut être le cas chez certains. C'est juste c'est une réalité qui existe dans ces pays-là et qui a longtemps constitué les sociétés de ces pays-là, de ces États-là. On est face à des États multinationaux.
Et si on revient à 1947, le musée est inauguré le 14 juin 1947. C'est une date qui a quel sens pour la Pologne ?
Alors, le 14 juin, c'est la date du premier convoi de Polonais qui ont été envoyés à Auschwitz. Que l'État polonais en 1947 et les organisations qui président cette cérémonie aient choisi la croix, ça montre d'abord qu'on est en Pologne.
La croix devant laquelle tout le monde se recueille ce jour-là.
Ça montre qu'on est en Pologne et que c'est, le catholicisme fait partie intégrante de l'identité polonaise. C'est un élément très puissant. En cela, il y a une légitimité à ce qu'en 1947, la croix soit utilisée pour commémorer le premier convoi dont la quasi-totalité, ou peu s'en faut, des victimes sont des nationaux polonais, entendu des catholiques. Et que le symbole du catholicisme soit mis en avant à ce moment-là, ce n'est pas scandaleux que les Juifs, qui constituent l'immense majorité des victimes du système Auschwitz, soient oubliés. Évidemment que c'est un énorme problème. Mais il ne faut pas non plus oublier que ce camp-là joue un rôle majeur dans la répression contre la nation polonaise. C'est aussi une réalité.
Dès le mois de septembre 1939, les Allemands cherchent à détruire les forces intellectuelles, culturelles, politiques et militaires du pays. Des milliers de civils sont arrêtés, emprisonnés ou déportés à partir de juin 1940. D'autres sont exécutés sommairement. Considérés comme une race inférieure, les Polonais sont destinés à être les esclaves des Allemands, à être déplacés ou à être exécutés. Plus de 1 800 000 Polonais catholiques seront victimes des nazis.
C'était un drôle de couple. Ma mère était une Polonaise catholique venant d'un petit village où ils étaient 13 dans la famille, 13 enfants.
Agnieszka Grozinska.
Voilà, en se mariant avec mon père, elle a accepté que lui, qu'il est communiste et qu'ils n'ont vraiment pas les mêmes idées. Mais justement, en tant que femme d'un apparatchik, il fallait bien qu'elle s'inscrive au parti aussi et qu'elle taise sa foi, bien sûr.
Ils se sont mariés en quelle année ?
46, juste après la guerre. Ils se sont rencontrés juste après la guerre. Enfin, maintenant, je me rends compte, cette enfance que pourtant j'ai vécue, et je la vois toujours comme une enfance heureuse, avec des parents aimants. Vraiment, le couple de mes parents était extrêmement affectueux, tout allait bien pour moi. Et c'est seulement après que j'ai compris qu'il y avait tellement de silence, tellement de tabous dans cette famille. Je peux en parler si vous voulez. C'est-à-dire le tabou des origines juives de mon père, qu'il m'a jamais dit. Il a changé après la guerre, comme beaucoup de communistes, mais pas tous, de prénom, de nom, dans les formulaires du parti qu'il fallait remplir tous les ans. Les mêmes questions, mais tous les ans. Par exemple, les noms et les prénoms de mes grands-parents paternels qui sont changés. Il a même changé les noms de la ville de sa naissance. Il est né à côté de Łódź, et alors que les papiers que j'ai eus, c'était Vilnius.
Il a rompu avec ses origines, en fait.
Mais vous savez, forcément, comme a dit un écrivain polonais, quand on devient un communiste, on cesse d'être juif. Forcément. Parce que c'est une idéologie, justement, qui n'accepte pas. Ça veut dire quoi, être juif ? C'est quand même pas être complètement polonais. Donc, c'était pas possible. Mais je le comprends et je l'absous. Mon père, parce que là où il est né, parce que ça m'a pris 10 ans, mais j'ai fait toutes mes recherches, je suis allée finalement dans ce village où il est né, j'ai trouvé son vrai acte de naissance, etc. J'ai tout maintenant, j'ai même l'arbre généalogique jusqu'à 3e génération. Après, quand j'ai commencé à fouiller dans le passé de mon père et du coup du mien, par exemple, les rares amis qu'il a gardés d'avant-guerre m'ont dit après sa mort, mais tu sais, il a demandé qu'on ne te parle pas de sa judaïté. Ça nous a été vraiment interdit. Donc, il croyait avoir bien fait, sans doute, pour m'épargner les souffrances et les problèmes qui étaient sans doute les siens, parce que je me disais que quelle vie, quelle double vie, vraiment une schizophrénie totale, vivre comme un Polonais qui a un nom bien polonais, en plus le prénom aussi, et faire attention à chaque pas. Une des amies justement m'a raconté après sa mort qu'elle se promenait avec lui dans la rue après la guerre. Et quelqu'un est venu vers mon père et a dit son vrai nom. Davidovitch, alors tu es vivant, tu n'es pas mort. Et mon père a immédiatement changé de trottoir en disant « c'est une erreur, vous faites erreur », alors qu'il les connaissait très bien. Donc il fallait tout le temps qu'il fasse attention, c'était sans doute très, très dur pour lui.
C'est parfois étrange, hein, mais c'est l'appellation de l'année 67. Comme les victimes d'Auschwitz n'avaient pas de tombe, l'idée était de réaliser...
On voit les calmes allées, les arbres, l'herbe verte. Près d'un mirador, un petit pont de pierre sort du sol. Un abri, indique une guide. On est abasourdi. C'est peut-être parce qu'on ne comprend pas ce qu'on voit. Ce calme, ces allées, cette herbe, sur lesquelles il faudrait superposer ce que la guide répète, comme sur un décor de théâtre, se surprend-on à penser. À Auschwitz 1, les mêmes bâtiments ont eu des fonctions différentes selon les années ou les affectations. Lieu d'internement, lieu de torture, bâtiment administratif, cuisine, hôpital des nazis. Et aujourd'hui, lieu d'exposition nationale, pavillon organisant parfois des mises en scène suspectes, où derrière une vitre, on peut par exemple voir le bureau d'un médecin, quelques chaises, une blouse blanche accrochée à un portant et une seringue authentique, promet une guide.
Là, vous voyez des baraquements, mais une brique en bois, c'était la partie.
Dès le départ, quand le musée est créé, il y a l'idée de confier des pavillons nationaux aux États qui seraient concernés par ce qui s'est déroulé à Auschwitz. En gros, quasiment toute l'Europe, tout ce qui relève de l'Europe allemande, sous occupation allemande ou collaborant avec le régime nazi. Et à partir du début des années 60, l'État polonais va commencer à distribuer des pavillons. Théoriquement, ça devrait être sur le fait que ces États auraient été concernés par Auschwitz. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Ça va être au prisme de la guerre froide. On va distribuer ces pavillons aux pays qui constituent le bloc de l'Est. La Hongrie, par exemple. Mais ça tombe bien, il y a plus de 400 000 juifs de Hongrie qui ont été déportés là. Donc là, c'est raccord. À la Bulgarie, par exemple, aucun juif n'a été déporté de Bulgarie vers Auschwitz, c'était vers Treblinka. Donc il n'y a pas de rapport entre le réel du site et le pavillon qui est ouvert. Même chose, il y a un pavillon qui est donné à la RDA, qui est héritière de la lutte antifasciste. Toute la RDA, tous ses habitants sont tous des antifascistes, par opposition à l'RFA qui est constituée que par des nazis. Donc vous voyez à quel point c'est politique. On va donner un pavillon au Danemark qui se revendique d'une certaine neutralité pendant la guerre froide. Donc le Danemark va avoir un pavillon alors qu'il n'est pas concerné par l'histoire d'Auschwitz. L'Autriche, qui est un gros enjeu dans le cadre de la guerre froide, va avoir un pavillon où les Autrichiens vont pouvoir clamer que leur pavillon est dédié à la mémoire des résistants qui ont été victimes des nazis, des juifs qui ont été victimes des nazis, et des quelques, de mémoire, le chiffre annoncé, c'était 200 000 Autrichiens forcés de s'enrôler dans la Wehrmacht. Tout ça, ça se met en place dans les années 60. La France finira par avoir un pavillon qui connaîtra plusieurs expositions.
Un peu plus tard, la France.
La France, de mémoire, ça doit être 1978, si je ne dis pas de bêtises. Mais surtout, ce qui est de très important, c'est que ces expositions... Pour la plupart, pas toutes, c'est pas le cas de la française par exemple, n'ont aucun rapport avec Auschwitz. Elles viennent parler du politique, de la grande lutte, de la grande guerre patriotique quand c'est le pavillon soviétique, de la lutte antifasciste, et on parle pas des victimes envoyées de ces pays-là vers Auschwitz.
Et pourtant, ce ne sont pas en tant que Hongrois, Autrichiens, Italiens, Français ou Polonais qu'on a gazé ces hommes, ces femmes et ces enfants, mais en tant que juif ou tzigane, avec parfois la collaboration active des gouvernements des États concernés. Au musée d'Auschwitz, le voile de l'antifascisme a désormais entièrement recouvert le génocide.
Et ce message-là, sur l'antifascisme, on le retrouvera pratiquement jusqu'à la fin du régime. Jusqu'en 89-90, le temps de changer le dispositif. L'antifascisme Qu'est-ce que c'est que l'antifascisme ? C'est une arme de propagande au service du régime communiste. Quand vous regardez les expositions dès les années 50, encore en 89, cet antifascisme-là ne dénonce pas uniquement le fascisme d'Adolf Hitler. Il dénonce d'abord le fascisme des États-Unis, de l'Allemagne fédérale en train de se réarmer, du camp occidental qui veut faire la guerre au camp socialiste, parce qu'on est en plein dans la guerre froide. Alors, que faire des Juifs dans cette affaire ? Sachant ce que nous savons aujourd'hui, qu'à Auschwitz, c'est quand même 1 million de Juifs qui sont morts là-bas, 900 000, 1 million, 1 million 100, on ne sait pas exactement, mais enfin, c'est autour de cet ordre de grandeur. Et que faire ? Que faire de cette question-là ? Et j'ai observé, mais pas que moi, qu'il y aura 2 opérations qui vont être menées par les responsables du musée pour évacuer cette question, ou pour l'occulter. La première opération, ça va être l'anonymisation des victimes. Quand vous allez, à l'époque, voir les différentes photos, les différents messages installés dans les différents blocs, parce que, comme vous le savez, Auschwitz est divisé en exposition générale. Il y a 5 blocs consacrés à l'exposition générale et il y a 7, 8, 9 pavillons dits nationaux, expositions dites nationales. Aussi bien dans les expositions nationales que dans l'exposition générale, le message diffusé est un message qui montre des Juifs, mais qui ne parle pas des Juifs. C'est ça, l'anonymisation. Par exemple, on dit, voilà, les convois arrivent. Mais on ne dit pas d'où ils viennent et où ils vont. On vous parle de la sélection, mais on ne dit pas de la sélection de qui. On vous dit les gens, on vous parle des gens. Les gens arrivent. Et donc voilà, il y a l'anonymisation. Et la deuxième opération qui est menée, c'est l'inclusion des Juifs dans leurs nations respectives. C'est-à-dire dans les pavillons nationaux. Vous êtes juif français ? Non, vous êtes français d'abord, dans la perspective de la muséologie mise en place. Vous êtes d'abord polonais, tchécoslovaque, soviétique. Voilà un peu le message global qui était délivré à cette époque-là. Soit dit en passant, cette occultation peut avoir aussi une interrogation plus profonde ou moins péjorative dans le sens où je le dis là à l'égard des responsables du musée. Parce que certains responsables du musée, dès 1947, se sont posé la question, est-ce qu'on doit inclure les Juifs dans leur nation ou en tant que Juifs ? Pourquoi ? Parce que les inclure en tant que Juifs, c'est épouser les catégories des SS. C'est les SS qui voyaient les Juifs comme Juifs. Et donc, finalement, on est dans la perspective SS quand on dit les Juifs. Et deuxièmement, certains Juifs ne se reconnaissent pas comme Juifs. Comme vous le savez probablement, je l'espère, l'identité juive est complexe. Et il y a des Juifs qui, pour rien au monde, n'auraient voulu être reconnus comme Juifs dans un dispositif muséologique. Donc, c'est une bonne question. Voilà un peu ce qui est charrié avec toute cette affaire.
5 colonnes à la une, mai 1967.
Auschwitz, 4 millions de morts. 4 millions de morts. Auschwitz, 16 avril 1967. Les vivants n'oublient pas. 120 000 pèlerins assistent à l'inauguration du monument international, élevé au lieu même où furent exterminés Russes, Polonais, Tziganes et 3 millions de Juifs de l'Europe occupée.
C'est un immense monument entre les ruines des crématoires 2 et 3. Une esplanade de béton à laquelle mènent les rails de Birkenau et où s'alignent des blocs de pierre comme encastrés les uns dans les autres. En 1967, lors de l'inauguration, une vingtaine de dalles disent en différentes langues, dont le yiddish et l'hébreu, 4 millions de personnes ont souffert et sont mortes ici, dans les mains des meurtriers nazis, entre 1940 et 1945. Ce n'est qu'au début des années 1990 que les dalles seront remplacées et la vérité historique rétablie avec un nouveau texte, celui qu'on peut lire aujourd'hui. Que ce lieu où les nazis ont assassiné 1,5 million d'hommes, de femmes, d'enfants, en majorité des juifs de divers pays d'Europe, soit à jamais pour l'humanité un cri de désespoir et un avertissement. Auschwitz-Birkenau, 1940-1945.
Il faut vraiment insister sur une chose. Rarement musée ou lieu de mémoire a été autant instrumentalisé par le politique comme l'a été Auschwitz. On peut même dire quasiment jusqu'à aujourd'hui. Instrumentalisé par le pouvoir politique, le meilleur exemple, c'est le pouvoir, Staline, l'URSS et le pouvoir communiste en Pologne, à la suite de Staline, qui dit qu'il y a eu 4 millions de victimes à Auschwitz. Le chiffre est faux, c'est dès la fin de la guerre. Mais ils imposent ce chiffre faux qui va faire le lit des négationnistes, par exemple.
Alors j'attire l'attention sur le mois de l'inauguration, avril. C'est très important, parce que avril, c'est le début de la libération des camps de concentration, les Américains et les Anglais, Ordruf, Buchenwald, Mauthausen, Dachau, Térésine. Quand on met la date d'avril, on prend les camps de concentration, et on ne prend pas Auschwitz, puisque l'entrée des soviétiques de l'armée rouge à Auschwitz date de janvier. Et c'est intéressant de voir que la date a migré aussi, et qu'aujourd'hui, la grande journée internationale à la mémoire des victimes, bon, ça s'est élargi de la Shoah, mais aussi des autres génocides parfois, c'est devenu janvier. Mais là, c'est avril. Donc, il y a un monument qui est fait avec 23 dalles dans les différentes langues, et puis des blocs, et devait surmonter une sculpture. Je ne suis pas très spécialiste en art, mais plutôt genre cubiste, enfin, pas d'un figuratif extravagant, et qui aurait représenté un groupe, un homme, une femme, un enfant. Donc c'est ce qui est préparé pour l'inauguration dans une cérémonie qui se tient en avril 1967. Or, dans la nuit, on démonte ce bloc et on le remplace par, on le voit très très bien quand on regarde attentivement, par quatre blocs de béton, avec au milieu un triangle rouge qui est le symbole de la déportation politique. Qu'est-ce qu'on supprime ? On supprime l'idée de génocide, puisque c'est la définition que donne ma collègue et amie Henriette Asseo. Elle dit « le génocide, c'est quand on tue en famille ». Et les seuls qui ont été tués en famille, ce sont les Juifs, et les tziganes, une vingtaine de milliers. Donc d'un chiffre plus faible, mais c'est le même principe, c'est-à-dire un principe génocidaire. Donc on le raye, et on fait de ce monument un monument politique. Et puis il y a une cérémonie. La cérémonie, elle est grandiose comme l'étaient les cérémonies à l'époque, il y a plein de discours, donc je ne vais pas énumérer tous les discours, mais pour... la déportation des Juifs, c'est un grand professeur de médecine de Strasbourg, grand résistant, grand professeur de médecine, qui s'appelle Robert Weitz. Robert Weitz préside le comité international d'Auschwitz.
De Pologne.
Robert Weitz prononce un discours. C'est le seul discours.
Nous sommes venus aujourd'hui à Auschwitz en pieux pèlerinage.
Qui n'est pas traduit en polonais.
Ce lieu est sacré. Jusque sous les dalles même de cette plateforme sont répandues dans la terre et les marais de Silésie les cendres de 4 millions d'êtres humains, nos parents, nos amis, nos compagnons de malheur. Au siècle d'Auschwitz et d'Hiroshima, ne laissez pas s'éteindre la flamme pure, mais encore vacillante, de l'espérance.
Et toute la cérémonie est placée sous le signe de l'anti-américanisme et de la lutte contre la guerre au Vietnam. Et à la suite de cette cérémonie, où, comme disait, je crois que c'est Wellers qui a eu cette expression, Georges Wellers, on a déjudaïsé les chambres à gaz, Robert Weitz a démissionné. Donc cette année de 67 est une année importante parce que, il y a quand même un lien avec Israël, déjà. C'est l'année de la guerre des six jours. C'est l'année où les pays de l'Est rompent leurs relations diplomatiques avec Israël. C'est la période d'une très grande vague antisémite en Union soviétique et en Pologne. On est dans 67-68, dans ce qu'on a appelé parfois un pogrom sec, où les les presque derniers juifs quittent la Pologne. Voilà, donc c'est aussi une rupture.
Le Parti socialiste le populaire publie ce matin un texte signé par un certain nombre d'intellectuels, dont Louis Aragon et Jacques Madol, dans lequel ils déclarent notamment « Sous prétexte d'antisionisme, un antisémitisme se développe depuis quelques mois en Pologne. Bien que l'antisémitisme soit toujours officiellement condamné, poursuivent-ils, on respire en Pologne une atmosphère qui pourrait rappeler divers précédents fâcheux. »
Même à ce moment-là, où pratiquement tous mes amis sont partis, ont quitté la Pologne, Je les accompagnais à la gare, la fameuse gare de Gdańsk, et je revenais à la maison. Mon père, il ne me disait rien. Il n'était jamais question de sa judaïté, ce qui posait un grand problème quand même en 1968.
Avant la guerre, plus de 3 millions de Juifs vivaient en Pologne. Plus de 20 ans plus tard, en 1967, il n'y a plus dans le pays que 30 000 juifs environ. Près de la moitié d'entre eux vont quitter le pays en 1968. L'épuration antisémite frappe les juifs engagés dans l'appareil d'État ou les institutions polonaises. Le père d'Agnieszka Grudzińska, lui, choisira de rester, sans pouvoir expliquer à sa fille pourquoi il perd son travail. Merci à Tal Brutman, historien spécialiste de la Shoah et de l'antisémitisme au XXe siècle. À Agnès Grudzińska, professeure émérite de la Sorbonne Université, auteure et traductrice. À Jean-Charles Chourek, historien, directeur de recherche émérite au CNRS. À Jonathan Weber, anthropologue, ancien membre du Conseil international d'Auschwitz. Et merci à Annette Viviorka, historienne, directrice de recherche honoraire au CNRS, sans qui cette série d'émissions n'aurait pu avoir lieu. Texte extrait de « Paysages de la métropole de la mort » d'Otto Dovkulka, lu par Pierre Weiss. Merci à Gaëlle Gillon, voix française de Jonathan Weber. Et merci au Musée mémorial d'Auschwitz-Birkenau. Documentation Anne-Lise Signoret, Antoine Villose. Archivina Delphine André. Prise de son Benjamin Reyes, Cédric Chatelus, Ludovic Auger, Sébastien Royer, Élise Le. Mixage Manon Houssin. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Auschwitz-Birkenau, le lieu témoin. Une série de Béatrice Leca et Yaël Mandelbaum.